m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro, non pas de claquettes, mais de Restons Courtois. Restons Courtois, donc l'émission de débat en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, Le Monde Moderne et L'Incorrect. Et ce soir, nous recevons en grand invité le journaliste François-Xavier Freland, auteur d'un livre important, La Grande Repentance, Afrique, France, les infortunes de la vertu, publié donc aux éditions Intervalle. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les causes réelles de l'effondrement des relations entre la France et l'Afrique, et elles ne se trouvent pas forcément là où la facilité, les temps changent, la culture de l'excuse, il y a des Russes et des Chinois qui font rien que prendre toute notre place, ou les bons sentiments, on a porté pourtant la démocratie et les droits de l'homme, là où la facilité donc nous pousse à le croire. Rendez-vous de la réinformation ensuite, avec l'horreur de la mort de la petite Liana, donc 11 ans, enlevée et tuée par un suspect qui avait déjà été signalé à la justice, dans 9 procédures de viol ou d'attouchement sexuel. On a appris qu'en août 2025, une plainte avait même été enregistrée contre lui pour des viols présumés sur une fillette de 12 ans, mais il ne s'était rien passé puisque la procédure est toujours en cours, donc le violeur et meurtrier présumé n'avait même pas encore été convoqué par la justice quand il a été soupçonné d'avoir enlevé et tué Liana. Tout cela parce que pendant ce temps-là, donc, la procureure de la République d'Auch, qui s'appelle Clémence Meyer, multipliait les procédures, elle, contre des agriculteurs qui avaient manifesté contre le Mercosur, et là, elle le faisait avec un enthousiasme et une énergie d'un certain point de vue admirable, techniquement. Alors voilà, comment expliquer une telle impunité pour les vrais criminels et comment expliquer de telles dérives du système judiciaire? Nous allons essayer d'y répondre tout à l'heure et elle s'explique peut-être par le sujet que nous allons traiter après cette horrible affaire qui est le nouveau projet débile, le nouveau projet de loi d'Aurore Berger après la loi Yadan avortée pour lutter contre la haine, avec les guillemets de circonstances, et qui prévoit toujours plus de mesures liberticides. Alors peut-être que pour lutter contre l'engorgement des tribunaux, on devrait mieux hiérarchiser la gravité des choses, peut-être concentrer les moyens de la justice sur les violeurs d'enfants, les assassins, les casseurs de rue, les trafiquants de drogue, et puis peut-être foutre un peu la paix aux prétendus délinquants de la pensée. Voilà, je demanderai leur avis à mes invités tout à l'heure. J'imagine que ça sera durement débattu. Justice et politique toujours, avec une nouvelle dérive, là qui voit, c'est une émission spéciale police-justice aujourd'hui, qui voit une nouvelle dérive, une mairie de Clichy-sous-Bois, qui a rendu un hommage public à un proxénète. C'est assez étonnant, c'est néanmoins vrai. Donc le maire de Clichy-sous-Bois et ancien ministre macroniste, on ne l'a pas assez souligné, Olivier.
Recteur d'académie à Strasbourg.
Ah bah super, c'est bien.
Recteur d'académie à Strasbourg.
Olivier Klein, donc, a rendu un hommage au proxénète de 20 ans, Mamadi Fofana, qui a été tué au couteau le 3 juin. Et là encore, comment expliquer un tel geste de la part du maire? Est-ce que la possibilité de rendre hommage à un mort issu de l'immigration était une trop belle opportunité pour marquer des points dans son électorat? Est-ce qu'il était au courant du pédigré du personnage qui a quand même été tué dans une chambre où le suspect principal s'apprêtait à accomplir une passe avec une des prostituées du réseau de M. Fofana?
Mineur.
En plus, bon, ça j'ignorais. C'est quand même étrange. Et donc voilà, est-ce qu'il ignorait ce pédigré? Et dans ce cas-là, pourquoi tant de précipitation? Ou pire, est-ce qu'il a fait cet hommage en toute connaissance de cause? Et alors là, on commence à franchir toutes les bornes. Et puis, justice et politique, enfin, mais cette fois-ci au Royaume-Uni, avec la polémique qui monte au sujet de l'immonde traitement réservé au jeune Henri Novak, donc poignardé à mort par un Sikh en 2025, mais qui avait été traité par les forces de l'ordre comme un coupable, qui avait été menotté et moqué par les policiers pendant qu'il étouffait et pendant qu'il décédait, littéralement sous leurs yeux en se vidant de son sang. Pendant ce temps, donc, les policiers, eux, prenaient soin du meurtrier, donc ce sikh qui criait à l'agression raciste et se plaignait d'avoir mal à l'œil parce qu'il aurait reçu un coup de poing. C'est vrai aussi. Hein. Donc, le procès a permis de révéler les abus donc, du wokisme policier, notamment grâce à l'action massive de Elon Musk, qui sur X, son réseau, donc, a lancé une campagne pour inciter, enfin pour contraindre plutôt le gouvernement et la police à publier les vidéos, ce qui a été fait. Et on a notamment vu donc, tout ce que je viens de vous raconter, et que les derniers mots du malheureux Novak étaient « je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer ». Donc l'affaire rappelle évidemment la mort de George Floyd aux États-Unis et le déclenchement du mouvement Black Lives Matter. Et le Premier ministre anglais, Keir Starmer, en 2020, avait posé le genou à terre sans hésiter. Et on se souvient qu'il ne l'a pas fait dans le scandale des grooming gangs, et il ne l'a pas fait non plus pour Henri Novak. Alors voilà, quelles peuvent être les conséquences de cette affaire ? Est-ce qu'il faudra un jour forcer Keir Starmer à enfin mettre un genou au sol pour tout le mal qu'il a causé à son peuple, lui et puis tous ceux qui
Alexis
l'ont précédé ?
Alexis Poulain attend un lien.
Et voilà, ce sont les questions que nous allons poser aux jurés de la réinformation avec Richard Decez, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, Xavier Van Liert, journaliste, et Alexis Poulain, patron du Monde Moderne. Nous déplorons aujourd'hui l'absence de Arthur de Vatrigan, qui est malade. Il a une angine, il n'a plus de voix, donc c'est la pire des choses qui puissent arriver à un chroniqueur radio. On le salue s'il nous écoute. Et je me tourne donc dès maintenant vers notre invité, François-Xavier Freland, auteur de La Grande Repentance aux éditions Intervalle. François-Xavier Freland, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes grand reporter, vous êtes également documentariste, et donc vous publiez cet ouvrage qui a été récompensé la semaine dernière au Printemps de la Liberté d'Expression à Perpignan, où je me trouvais, en présence de personnalités donc, comme Nicolas Dupont-Aignan ou Boualem Sansal, qui a d'ailleurs donné une contribution à votre livre. Avec qui vous avez reçu ce prix. Donc c'est un essai qui est consacré à l'étonnante ou à la stupéfiante dégradation des relations entre l'Afrique francophone et la France. Et selon vous, donc, ce recul de l'influence française dans ce qui a été un précaré ne s'explique pas seulement par l'évolution naturelle des États africains, c'est-à-dire ils ne veulent plus être dominés, ils veulent leur indépendance, ou par la concurrence de nouvelles puissances, puisque ce n'est pas parce qu'ils sont de nouvelles puissances qu'ils vont forcément prendre notre place. Vous y voyez aussi la faute, sur le fond et sur la forme, de la diplomatie française. Alors, on va y revenir, mais avant d'aborder le fond du sujet, on a coutume de faire connaissance avec nos invités. Alors, c'est l'occasion de revenir peut-être sur votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu reporter en Afrique ? Alors, journaliste peut-être déjà, et puis reporter en Afrique.
En lisant Tintin.
En lisant Tintin. Oui, c'est vrai qu'il est dans votre bibliographie.
Oui, Tintin au Congo, d'ailleurs.
Tintin au Congo.
J'ai envie de dire, je suis tombé dans la marmite parce que j'avais d'abord des parents assez voyageurs, donc ça aide un petit peu à s'ouvrir au monde. J'ai eu très vite envie de faire un métier qui me permettrait de joindre l'utile à l'agréable, donc de pouvoir parcourir le monde. J'avais envie d'être écrivain, mais c'était un peu plus compliqué. Et donc le journalisme, c'était la voie royale. Et très vite, j'ai d'abord commencé par voyager en Amérique latine, avant de voyager en Afrique. Et puis au retour d'Amérique latine, j'ai vécu en Espagne.
Comment ça s'est fait ? Alors, vous avez travaillé dans une rédaction tout de suite ? Vous étiez
Alors non, alors c'est drôle parce que ça remonte aux années 90 et à l'époque, j'avais donc fait une école de journalisme quand même à Paris, l'ESJ Paris, et des études d'histoire. Mais je n'avais aucun contact, mon père était médecin, plutôt milieu médical, donc aucun contact dans le milieu journalistique. Et Dieu sait s'il faut en avoir souvent, notamment dans les grands, oui, dans les grands médias dont on va parler tout à l'heure, où il y a énormément de gens qui sont des enfants d'eux ou des fils d'eux. Donc j'avais pas cet avantage-là. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, je vivais donc à Madrid au retour d'un grand voyage en Amérique latine, et j'étais prof de français, un peu comme on fait tous parfois dans les premiers... en tous les cas, j'avais, voilà, je donnais des cours pour une entreprise française que je ne vais pas nommer, mais qui était installée à Madrid. Et un jour, je vais à un cocktail de l'Institut français, il y a une dame qui parle avec moi, qui travaille dans la diplomatie, qui me dit « Ah, vous avez une belle voix, il faudrait que vous fassiez de la radio. » Et je lui dis « Bah, ça tombe bien, je cherche du boulot dans la radio. » Et elle m'a donné les contacts des correspondants locaux des grands médias français. Je les ai appelés les uns après les autres et j'ai fini par en remplacer certains, dont les correspondants de Radio France, Radio France Internationale. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, bah, vous le savez mieux que moi, on faisait des papiers donc depuis Madrid, moi en tous les cas, au téléphone. Et voilà, on lisait les papiers, il n'y avait pas encore Internet.
Avant Internet, oui.
Donc ça semble très loin. Et pourtant, c'était une autre époque. Et on faisait même des reportages où on enregistrait les sons, puis on les faisait enregistrer au téléphone. Voilà, donc ça, j'ai connu ça. Et puis petit à petit, je suis monté, on va dire, je suis rentré à Paris, j'ai commencé à travailler à France Info. À une époque où il y avait...
Jamais en presse-papier, alors?
Au début, non.
Non,
non, j'étais très radio et pendant longtemps, je suis resté très radio. Puis après, je suis passé à la télé. En gros, j'ai travaillé à Radio France, France Info. À une époque, c'était encore le service public. Il y avait quand même une petite possibilité d'être à peu près indépendant et de pouvoir dire des choses. Ça s'est quand même très politisé depuis 15-20 ans. Et puis, je suis parti sur le terrain. Moi, j'avais très envie quand même j'avais pas envie de rester dans un bureau. Et j'avais envie d'être correspondant à l'étranger. J'ai commencé par être correspondant grâce à la création de France 24 à Bamako. Au Mali. Et là, je suis parti avec ma compagne de l'époque m'installer à Bamako. C'était le premier poste, entre guillemets, pour la chaîne. Et j'ai vraiment fait du Tintin. Là, c'était extraordinaire parce que j'avais une moto, j'allais un peu partout aux quatre coins du pays. Je couvrais toute la région. Donc, dès qu'il y avait n'importe quoi, un coup d'État, une guerre, un truc, je me déplaçais.
L'actualité habituelle.
Voilà, l'actualité habituelle en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à aimer l'Afrique où j'étais déjà allé pour un autre voyage sur les traces d'une grande tante qui avait vécu à l'époque coloniale et tout. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment apprécier cette région du Sahel, hein, dont on va peut-être un peu parler. Parce que quand on est breton comme moi, hein, je suis originaire de Nantes, mais je suis né à Vannes. J'adore d'ailleurs la Bretagne, je suis très attaché à mes racines, mais j'aime la lumière aussi, j'aime le soleil. Il y a une très belle lumière en Bretagne, hein, mais j'aime le soleil aussi. Et j'aime les couleurs du Sahel et les cultures. Il y a des cultures très intéressantes dans cette Afrique qui me rappelaient un petit peu les récits d'Henri de Montfred. Il y avait encore un peu de cette Afrique mythique, un petit peu à l'écart du monde, du brouhaha. C'était quand même un Mali relativement calme à l'époque. On le mettait en avant comme une espèce d'exemple de démocratie, ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais enfin bon, d'exemple de stabilité en tous les cas. Et il y avait un tourisme d'ailleurs qui commençait, et pour vous dire, je vous parle des années 2007, ma mère est venue me visiter plusieurs fois et je l'ai emmenée au Pays Dogon. On est allé en bateau sur le fleuve Niger jusqu'à Tombouctou. C'est des voyages aujourd'hui, vous prenez des risques là si vous faites ça, mais c'était complètement, elle s'en souvient encore, pour elle c'est ses plus beaux voyages, et pour moi aussi d'ailleurs, c'était on remontait le temps en fait, c'était incroyable.
Alors on va remonter le temps avec vous. Je précise simplement aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent adresser leurs questions ou leurs remarques à François-Xavier Freland ou tout au cours de l'émission pour les autres sujets par courriel, donc en écrivant un message à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Alors, François-Xavier Freland, vous évoquiez Henri de Montfred. Quelles ont été vos autres inspirations? On parlait hors antenne de Richard Kapuscinski. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui?
Moi, je l'ai découvert. Alors, c'est marrant parce que quand on vit dans un continent ou j'ai vécu aussi en Amérique latine, on en parlera peut-être plus tard, mais on essaye de connaître un peu, de défricher les écrivains locaux, et puis les écrivains qui ont parlé de l'Afrique. Et j'avoue que j'ai surtout été sensible à certains écrivains français qui parlaient de l'Afrique. Donc, je vous ai dit Henri de Montfred, évidemment. Et puis, quand on commence Henri de Montfred, on s'arrête plus, en fait. On est pris par son récit, sa plume. D'ailleurs, je pense être le meilleur africaniste de tous les temps. Il n'y en a pas un dans ceux d'aujourd'hui qui se prétend spécialiste, qui connaisse autant l'Afrique que lui. Donc lui, il a vraiment connu viscéralement, je dirais. Et puis, Kapuscinski, c'est un peu pareil. En fait, ce que j'aime bien chez Kapuscinski, c'est ce que j'ai toujours voulu faire.
C'était un reporter polonais qui travaillait dans le camp socialiste.
Voilà.
Alors, il travaillait mais qui était quand même très bien.
Il travaillait, c'est ça, pour la Pravda locale de Pologne, mais qui était intéressant parce que justement, il n'avait pas cette prétention civilisation occidentale que moi j'ai souvent croisé lorsqu'il y avait en quatre coins du monde, lorsque j'avais des poules de presse, on voyait ces reporters occidentaux avec les meilleures caméras, le meilleur matériel, toujours assez prétentieux, et lui, petit journaliste d'un média sans doute assez avec peu de moyens, il avait sa plume, son carnet, et il raconte ce qu'il voit, et de manière très très différente évidemment de tout ce qui est raconté ailleurs à l'époque. Donc moi j'étais sensible tout de suite à ça, parce que il défendait plus ou moins une idéologie, parce que je crois pas qu'il était à fond communiste, même s'il a été, voilà,
il avait
pas le choix, oui. Il était monté voilà en grade grâce à ça aussi, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui avait aussi l'amour de la curiosité et l'envie de raconter des histoires, parce que moi j'ai pas été journaliste pour être un procureur, j'ai pas été journaliste pour aller mettre mon nez dans toutes les poubelles, c'est pas ça qui m'intéresse, j'étais journaliste pour témoigner le mieux possible, le plus sincèrement possible, et puis éviter de trop donner de leçons, et c'est ce que j'ai aimé chez Kapuscinski, qui voilà, après lui disait, quand je raconte une histoire j'ai forcément une certaine subjectivité, et là c'est le grand débat sur l'objectivité du journalisme. Je suis d'accord, je veux dire, à partir du moment où vous dites les choses, vous les racontez quand même avec votre prisme, et derrière vous, il y a toute votre culture, votre éducation, et donc moi j'en étais conscient, mais je préfère le dire plutôt que de me cacher derrière une pseudo-neutralité, comme font beaucoup de confrères d'ailleurs sur le service public. Or, c'est encore plus choquant, parce qu'on sait très bien que c'est d'une hypocrisie totale, ou alors carrément du déni, ou de la bêtise, je ne sais pas.
Oui, oui. Ah ben, c'est ce que je me tue à expliquer, c'est-à-dire l'objectivité n'existe pas, seule existe l'honnêteté.
Voilà, bon,
c'est-à-dire que le simple fait d'expliquer quels sont nos préjugés, nos façons de voir la vie, c'est honnête.
Essayons.
Mais par contre, prétendre à une neutralité, c'est un...
Ouais.
C'est vraiment là où se trouvent les pires menteurs, je crois. Et alors, donc ça, c'est pour l'Afrique. Vous avez aussi lu Joseph Kessel, Albert
Londres.
Oui,
Kessel était un ami d'ailleurs de Monfred. Hein, ils étaient assez copains. Moi, je trouve que Monfred a beaucoup plus de talent que Kessel. Kessel un peu poseur en fait, mais bon,
moi aussi.
Après, c'est un avis personnel. J'aime moins sa plume, il m'emporte moins. Je trouve que c'est peut-être un peu. Bah, il a été courageux, etc. On connaît son parcours, la résistance, tout ça, mais je trouve un peu moins... Finalement, j'aime bien les gens qui se prennent des coups, et Monfred, il s'est pris beaucoup de coups, et ça le rend sympathique. D'ailleurs, vous devez le savoir, mais Hugo Pratt s'en est inspiré, c'était un grand ami d'Henri de Monfred, et il s'est inspiré d'Henri de Monfred pour faire cette espèce de Don Quichotte corto-maltaise, hein, espèce de personnage comme ça, contre tous, et j'avoue que je préfère, et moi, dans le journalisme, j'ai toujours été seul contre tous, et ça m'a pas dérangé, parce que c'était quelque part mon carburant, j'étais jamais dans les pays où il y avait trop de monde, alors désolé, là, je ne serai pas autour de l'Iran ou autre. Je préfère y aller après ou avant, mais pas que pendant, parce que c'est pas que j'ai peur des guerres, parce que j'en ai fait certaines, mais c'est que j'aime pas être avec tous ces gens qui se gargarisent et qui font la fête en plus. Parce que moi, je les ai croisés au Mali, ils se retrouvent le soir, c'est la bamba, la bamboula, on fait n'importe quoi. Il y a un côté qui m'a toujours un peu écœuré dans ce journalisme, en plus de vedette, de starification. Moi, j'arrive de je sais pas quelle chaîne de télé, moi, je travaille pour un tel, moi, je t'ai déjà vu, t'as fait ci, enfin, bon, c'est des trucs qui m'ont jamais tellement excité. Et je préfère être dans des pays un peu plus à l'ombre, un peu plus... Donc c'est pour ça que j'ai choisi entre autres le Mali, j'étais aussi à Madagascar. Madagascar, si tu disais Madagascar, il y a plein de choses à raconter à Madagascar. Et puis dans des pays comme le Venezuela...
Ouais, oui, c'est ce que je voulais évoquer, avant d'arriver vraiment au cœur de la grande repentance aux éditions Intervalle, dont vous avez aussi voyagé en Amérique du Sud. Comment ça s'est fait et, qu'est-ce que vous y avez découvert ?
Je vais vous épater. Moi, j'ai lu les carnets du Che Guevara. Hein, ça ne m'a pas déplu. Hein. C'est intéressant au début, hein, parce que c'était quand même un type qui avait une plume et qui racontait des réalités pas inintéressantes. Alors, évidemment, ce n'est pas ma seule... C'est pas pour lui que je suis allé voyager en Amérique latine. Hein, mais je veux dire, c'est un ensemble d'écrivains, d'envie. Bon, après, quand vous... réfléchissez au monde, vous vous dites l'Amérique latine, c'est que ça reste un peu le continent des possibles, c'est comme l'Amérique, il y a un côté un peu grands espaces, donc moi c'était ça qui m'attirait quand on arrive d'un pays comme la France où c'est très beau, mais c'est plus le bocage, c'est plus, même s'il a été de moins en moins, mais c'est quand même un pays hyper façonné, très beau, que j'adore, mais on a envie de voir autre chose. Donc l'Amérique latine, c'était un peu cette recherche-là, comme l'Afrique d'ailleurs, un peu, avec ses couleurs, avec ses coups politiques aussi, parce que c'est quand même un pays toujours expérimental au niveau politique, de droite ou de gauche, on le voit aujourd'hui, hein, avec ce basculement à droite incroyable, après avoir...
Ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi.
Oui, oui, on en parlera, après plusieurs décennies à gauche toutes, là, ils sont barrés à droite, c'est le cas de le dire. Et donc tout ça, c'est intéressant pour nous Français aussi, parce qu'on y apprend des choses. C'est aussi un continent qui a cet avantage d'avoir récupéré un peu des Européens et des Africains. Donc il y a des choses, moi, qui me parlent après toutes mes correspondances. Parce que je suis allé au Venezuela, par exemple, après avoir vécu au Mali. Et donc j'avais cette expérience, Mali et Madagascar, donc j'avais cette expérience africaine que j'ai retrouvée un petit peu quand même avec Latine. Il y a des origines afro-descendantes.
Qui dirigeait le Venezuela?
Chavez. Alors moi, c'est d'ailleurs pour lui, hein, évidemment, que je suis allé voir. Je voulais savoir ce qui se passait. J'étais plutôt assez intéressé au début, assez positif même. Je me disais, tiens, il a l'air d'avoir un personnage intéressant dans son discours par rapport aux États-Unis, etc. Bon, très vite, je me suis rendu compte que c'est quand même pas mal de ça tenait pas, en fait, son histoire. Il était quand même très lié au régime cubain, très castriste, et puis, alors après, moi, j'ai eu la chance, j'avais envie de connaître ce personnage. Pour moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Alors voilà, c'est aussi être là. Si j'avais pu, à une autre époque, j'aurais voulu connaître d'autres dictateurs, si on peut les appeler comme ça. Mais moi, j'aime les grands hommes, qu'ils soient dictateurs ou pas, et j'aime bien les gens qui apportent quelque chose. Chavez, on peut le critiquer, on peut lui trouver plein de défauts. Il a quand même apporté quelque chose. C'est le cas de Milei aujourd'hui, dans un autre style. C'est des personnalités qui vont à un moment casser le socle de la bien-pensance. Et c'est vrai que, pour le coup, je me suis amusé. J'ai écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « Qui veut la peau d'Hugo Chavez ?» Mais je l'ai suivi partout. J'ai eu la chance d'aller au palais présidentiel tout le temps. Je l'ai suivi en campagne. J'ai connu Maduro, à l'époque où, quand même, peut s'intéresser à ce personnage. Donc je suis rentré un peu dans ce pays. Et j'y ai laissé des plumes, d'ailleurs. En fait, quand vous vivez dans des pays compliqués, c'est difficile à tout point de vue, en fait, même au point de vue sentimental, en fait, parce que c'est des pays qui vous mettent dans une espèce de... Et je trouve que la France ressemble de plus en plus à un pays comme ça, d'ailleurs. Non, c'est vrai.
Non, c'est... Si, hélas, oui, on est
d'accord. C'est un pays où il y a une forme de précarité à tous les niveaux, et on le sent dans le désespoir des gens, en fait. Et je trouve que c'est un pays qui bat pas bien, comme allait à l'époque le Venezuela. Il y avait beaucoup de tiraillements, beaucoup de haine qui était en train de monter, de frustration, et donc ça a forcément un impact quand on est un peu humain, quand on est sensible, tout ça vous et moi, comme j'étais aux premières loges, entre guillemets, parce que je couvrais tous ces événements. Alors, il faut savoir aussi que je couvrais toute la sous-région, donc je vais aller couvrir le tremblement de terre en Haïti, qui est quand même aussi un autre événement très lourd, et puis des coup d'État ici et là, et puis Cuba, j'allais beaucoup à Cuba. Donc on vit, mais c'est bien, moi je regrette rien, je suis très heureux d'avoir... Je n'ai rien contre les gens qui vivent au même endroit toute leur vie, au contraire j'ai même une grande admiration pour ces gens-là, et je pense que pendant des siècles et des siècles, nos ancêtres vivaient au même endroit, et ils n'avaient pas l'air plus malheureux qu'aujourd'hui, on vit partout et on ne sait plus où on habite. Et c'est parfois mon cas d'ailleurs, parce que je suis un nomade, comme on dit, pour vous dire, j'ai même une maison en Grèce, donc...
Ça va encore.
Et je suis très attaché à la Grèce et à cette Europe-là, d'ailleurs, à cette Europe un petit peu en dehors des circuits qui gardent ses traditions, les bergers, tout ça, ça me parle, les cloches, tout ça me plaît, en fait, de plus en plus. Et je pense que c'est ça. Donc, quand on voyage comme ça, et je pense que mon Fred, sans vouloir évidemment faire de comparaison, mais c'était ça, c'était des gens qui se perdaient pour mieux revenir, pour mieux se retrouver. Et je crois que c'est ça l'histoire de la vie, hein, pour certains, en tous les cas, moi. Et ça me permet aussi d'écrire. C'était quand même un bon carburant, enfin une bonne inspiration, le monde, pour écrire. Et c'est vrai que moi c'est tout ça. Alors ça, c'est plus compliqué souvent en termes personnels, familiales, parce que c'est des vies un peu plus instables, faut vous suivre aussi, hein, dans ces péripéties, donc c'est plus complexe, mais en même temps vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes très accompagné, et j'ai des amis, j'ai des amis dans beaucoup de pays, et qui sont d'accord avec moi sur beaucoup de prises de position très critiques sur notamment l'immigration, des choses comme ça. Beaucoup d'Africains d'ailleurs, hein, qui me disent « Mais comment vous faites pour supporter toute cette insécurité, tous ces gens qui viennent chez vous faire n'importe quoi ?» Oui, c'est aussi parce que j'ai vécu à l'étranger que je me suis dit « Mais attendez, la France c'est un beau pays, enfin la France c'est un pays qui accueille le monde. » Moi, quand j'étais au Venezuela ou quand j'étais à Bamako, les gens me parlaient de la France avec des étoiles dans les yeux. Donc à un moment, on avait un beau pays... Et qu'est-ce qu'on en a fait, quoi ? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Moi, ça me choque, en fait. Ça me choque parce que quand j'ai vécu à l'étranger, alors on digresse un peu, mais j'ai toujours eu le respect des pays où j'allais. Je ne me suis jamais promené en maillot de bain dans les rues de Bamako, enfin, je ne sais pas, au jour de la prière. Je fais attention aux cultures locales, idem en Amérique latine. Quand j'en ai eu marre de vivre chez Chavez, je suis parti, enfin, tout journaliste que j'étais. Quand je me suis dit, je ne peux pas faire mon boulot, je m'en vais, puis c'est tout. J'arrête de faire le donneur de leçons ou le... Et je trouve que les gens oublient ça, en fait. Ils oublient d'être au moins respectueux des lieux ou
des lois des accueils. Oui, c'est vrai. C'est un peu oublié, effectivement.
Rome fait comme les Romains.
Voilà, exactement.
Alors, en Argentine, donc, je ne sais pas si vous avez fait comme les Argentins, donc, mais vous avez fait un documentaire
sur Milei, ouais.
Sur Milei, qui a eu un succès. Ouais. Et,
j'étais le premier à l'interviewer, surtout.
Ah, très bien.
Oui. Oui, premier français. Et,
Et là, on avait justement une expérience à retenir de votre travail et des leçons. Vous avez vu vraiment comment il a pris le pouvoir, littéralement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode Milei pour la conquête du pouvoir ?
Face à un monopole des médias, tous contre lui, il a fallu qu'il contourne. Et comment il les a contournés ? Par les réseaux sociaux, évidemment. Donc ça a été sa première stratégie. C'est de parler aussi à tous ceux qu'on disait appartenir à la gauche, donc c'est les jeunes, on dit tout le temps de gauche, hein, quand on a 20 ans, on est révolutionnaire. Ben non, on peut défendre des valeurs qui sont des valeurs de droite en ayant 20 ans, et d'ailleurs on le voit en France de plus en plus. C'était les pauvres, c'était de dire, écoutez, nous on va s'occuper de vous, arrêtez de croire que ces gens-là vont vous offrir des droits sociaux, alors qu'en fait, en réalité, ils achètent vos votes. On va essayer de redistribuer, mais il y aura une valeur travail, et il faudra s'y mettre. Donc c'était cette fameuse bataille culturelle, que je raconte un peu dans ce documentaire. J'ai rencontré ses principaux conseillers, qui sont des jeunes de 30 ans, hein, c'est des types de 30-35 ans, qui sont aujourd'hui des gens écoutés sur 2-3 millions de followers sur leur chaîne YouTube. Enfin, c'est des vrais influenceurs, hein. C'est comme ça qu'on dit. Il y en a un qui s'appelle Agustín Laje, que je connais très très bien, et qui est un des piliers du miléisme, et qui vous raconte comment, justement, ils ont monté cette contre-propagande, et que dès que Milei est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'était de couper tous les vivres aux associations contre lui, donc les associations LGBTQR, les associations néo-féministes. Et comme il le disait lui-même, ça ne veut pas dire que je suis un homophobe, ça ne veut pas dire que je suis un anti-féministe, ça veut dire que stop, quoi, la propagande dans un sens est finie. Donc il a un peu remis, je dirais, de l'ordre. Et puis il a stoppé certaines agences de presse, donc la principale agence de presse, une sorte d'AFP local qui effectivement avait été créé sous Perón, mais qui n'avait qu'un discours très très progressiste, très très à gauche, donc très contre lui. Donc
service public local.
Après, moi j'ai travaillé beaucoup pour le service public, donc je suis pas un anti service public. Je pense qu'il faut un service public, mais de qualité. Et neutre, quoi. Mais c'est très difficile, hein, on l'a compris.
Oui.
C'est ça l'ennui, mais je pense qu'on peut quand même réussir à un moment ou l'autre à avoir, c'est important d'avoir aussi des radios, des télés qui puissent faire entendre toutes les tendances. Malheureusement, c'est plus le cas, mais c'est ce qu'il faudrait. Mais
alors, cette bataille culturelle dont vous parliez et que Milei a gagné, c'est un travail de combien de temps en amont de l'élection? Est-ce qu'on a une idée?
Moi, honnêtement, l'impression que j'ai, c'était très rapide. C'était très rapide parce que lui, il est apparu, alors quand même, 7-8 ans, il est apparu en 2017, il est devenu, c'est un prof d'économie. Et puis, il a commencé à se faire inviter sur les chaînes de télé. Et puis, comme il parle bien et qu'il a la phrase facile, hein, vous l'avez vu, hein, oui. D'ailleurs, il est mondialement connu aujourd'hui. C'est le phénomène Milei. Hein, je l'appelle souvent le Maradona de la politique, quoi. C'est un type, il attire les sympathies, comme d'ailleurs les haines. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a su parler au cœur des gens. Et qui petit à petit s'est fait connaître, donc on a dit à travers aussi ses réseaux sociaux, tous ses influenceurs qui ont commencé à faire entendre sa voix, et petit à petit il s'est imposé sur les autres, parce qu'en fait il cassait l'espèce de discours un peu ennuyeux, tous ces gens qui viennent bien cravatés mais dont on sait qu'ils ont derrière des casseroles. C'est ça aussi Milei, quand il met ça, c'est aussi un style, il met sa veste en cuir, il chante du rock, donc il va un peu parler. C'est du populisme, on dira. Oui, mais enfin, c'est une forme aussi de se rapprocher des gens, en fait. Et c'est vrai que, pour l'avoir suivi, c'est quelqu'un qui va facilement au contact, qui va pas se cacher derrière une barrière, qui va aller serrer la main, etc., comme d'autres politiciens l'ont fait. Mais donc c'est ça aussi, c'est d'être au plus près des gens et pas rester sur une espèce de distance en promettant des tas en faisant des tas de promesses jamais possibles. Il est comme ça. C'est une personnalité. On n'en a pas en France vraiment des personnalités comme ça. Parce que je pense qu'en France, il y a une forme de on s'impose une trop grande courtoisie peut-être. et c'est vrai qu'il y a pas de personnalités qui viennent comme ça. Alors il y en avait peut-être avant. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que à l'heure d'une justice qui est quand même assez aussi progressiste.
Contraignante. Oui.
Vous dites ce que dit Milaï. Vous pouvez avoir de graves problèmes aujourd'hui en France. Hein. Tout est très censuré, tout est très écouté. Le moindre petit dérapage, c'est un procès. Donc c'est difficile de faire de la politique.
Tiens, c'est intéressant. Vous constatez ça, vous, en tant que justement que grand reporter qui a beaucoup, beaucoup voyagé, cette restriction des libertés en France par rapport à d'autres pays?
Attention, parce que moi, j'ai connu le Venezuela, c'était quand même très compliqué.
Oui, hein,
j'étais de l'opposition. D'abord, plus ça allait, moins il y avait de médias d'opposition, donc là, déjà, c'est clair. Ensuite, la plupart des opposants étaient obligés de
partir,
s'exiler. Donc voilà, il y a quand même encore une petite... Mais demain, LFI arrive au pouvoir, je pense que c'est ça qu'on vivra. Je pense très clairement que c'est ça. D'ailleurs, ce sont des amis de ces régimes-là, et c'est ça qu'ils préparent. Avec Macron, on va dire qu'il y a un peu de retenue, mais il y a quand même une reprise en main des médias, ça c'est clair et net. On est passé de médias progressistes à des médias progressistes ou macro-compatibles, comme on dit. Hein. Donc on les
l'extrême
entend.
L'extrême centre. Ouais.
Voilà, l'extrême centre, on les entend sur les principaux médias mainstream. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, par rapport à 10-15 ans, je trouve une... Mais c'est aussi le monde d'aujourd'hui hein, qui est devenu extrêmement... il faut faire attention à tout, quoi. Je me dis, un type comme Monfred, aujourd'hui, il pourrait pas écrire. Non, mais je veux dire, c'est ça le problème. C'est qu'en plus, on passe à côté de gens talentueux, avec cette espèce de politesse, je sais pas. Et donc, c'est accablant et c'est grave parce que.
Bah, c'est plus que de la politesse, c'est une forme de puritanisme.
Oui, moderne. De puritanisme, voilà. C'est le mot que je cherchais. Vous voyez, je ne trouve même pas ce mot tellement il me plaît pas. Mais non, c'est ça. C'est ce puritanisme-là, de gauche, qui est devenu très violent. Censeurs, procureurs, Mediapart, tout simplement. Ce sont des médias qui, moi, m'effraient, en fait. Je sais même pas, quand j'entends des journalistes qui citent Mediapart comme un exemple, moi, je suis inquiet, en fait. Je me dis, mais c'est pas ça, le journaliste, quoi. En tout cas, c'est pas ce que voulaient faire des gens comme Albert Londres. C'est pas ce qui nous a fait rêver, en tous les cas. Si. Et en plus, derrière, je vois beaucoup d'égocentrisme, beaucoup de volonté. Beaucoup se sont fait connaître, d'ailleurs, dans mes confrères, se sont fait connaître à travers des affaires, des scandales, se mettre en avant, en fait. C'est un peu ça. Et donc, moi, ça me gêne, parce que c'est une fois de plus... Alors, je dis pas que tous les journalistes de Mediapart sont comme ça, il y a sans doute des gens qui font bien leur boulot, hein, mais il y a beaucoup de ça, et pas qu'à Mediapart, d'ailleurs. Et cette tendance-là, soi-disant, du journalisme d'investigation, m'effraie, en fait. Je trouve que c'est un journaliste qui me donne l'impression d'être... Voilà, ce puritanisme intellectuel.
Oui, c'est-à-dire que le reporter est un conteur qui décrit ce qu'il voit, tandis que le soi-disant journaliste d'investigation est un petit procureur qui essaye de remplacer... Qui a un rêve caché
un
d'être juge, quoi.
Oui, un délateur. Et moi, ça me...
Et qui est sur la logique du tableau de chasse, comme c'est les juges.
Ouais.
Oui, il faut effectivement...
Il faut accrocher le trophée au-dessus du bureau.
Alors, on va venir à la grande repentance. Donc, Afrique, France, les infortunes de la vertu aux éditions Intervalle. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre? C'est peut-être la meilleure façon de rentrer dans votre sujet. Pourquoi la grande repentance? Est-ce que...
Écoutez, je trouve que, en fait, la France est un beau pays. Ma grand-mère disait que c'était un pays généreux, trop généreux. Elle n'avait pas tort. Et je trouve que, en fait, avec nos belles valeurs judéo-chrétiennes, parfois on en a fait un petit peu trop. On s'est un petit peu trop penché vers la contrition. Et je trouve qu'il faut arrêter toujours de s'excuser de tout, en fait. Et d'ailleurs, je dis souvent... Les gens, je dirais, courtois ou les gens polis s'excusent une fois. Quand on s'excuse trop...
Et encore, ça dépend.
On peut s'excuser, pourquoi pas.
Si on a fait une vraie bêtise.
Voilà, si on a fait une vraie bêtise. Mais c'est toujours bien. Bon, sur l'esclavage, on peut peut-être s'excuser, on peut peut-être être d'accord.
Ah non, je ne suis pas d'accord.
Bon, d'accord.
Je pense qu'on devrait
utiliser
des
statuts.
Voilà, on l'a aboli. Mais on l'a quand même utilisé.
Mais comme tout le monde sur Terre. Alors ça, c'est un vrai, c'est une de mes marottes.
Ok.
Ils devraient nous élever des statuts. Parce qu'on est le premier peuple.
On a le droit de ne pas être d'accord.
À avoir rendu ignoble une pratique qui semblait normale à tout le monde.
Pour le coup, là, on est d'accord. Mais voilà, je dis qu'en tous les cas, on peut s'excuser une fois, mais si on s'excuse trop de fois, ça devient contre-productif. Et je crains que ça soit le cas en tous les cas de Macron et de tous ses ministres des Affaires étrangères successifs qui s'excusent de tout tous les quatre matins de manière...
Sur le dos des autres aussi.
Et en plus, voilà. Et en fait, c'est cette voie-là, un peu trop, je dirais facilement, en plus, un peu hypocrite, parce que finalement, c'était toujours pour espérer derrière des intérêts ou des. Et ça ne marche pas, en fait. Parce que plus vous excusez en Afrique, et plus ils se moquent de vous.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est un sujet extrêmement important, parce que j'en parlais un jour avec Jean-Paul Gourevitch, qui a beaucoup vécu en Afrique aussi. Ouais, ouais. Et il m'expliquait que c'était la pire des choses à faire. Alors, pour vous, pourquoi?
C'est vrai qu'en Afrique, on aime bien. Il y a une forme de loyauté, on aime bien, ils sont très, comment dire, ils vous perçoivent, voilà. On perçoit beaucoup en Afrique. Alors on dit souvent que c'est le continent, avec peut-être un peu de caricature, que c'est le continent de l'irrationalité, hein. Donc ils ont ce regard sur vous, et souvent c'est vrai que le moindre petit bonhomme que vous rencontrez au fin fond du Sahel avec sa canne et ses chèvres, c'est pas quelqu'un qui, c'est d'abord quelqu'un qui vous voit arriver, qui va vous jauger et qui ensuite voilà, s'adressera à vous de manière sympathique ou pas, en fonction de ce qu'il a ressenti. Et je pense qu'il ressent très vite notre hypocrisie, en fait. On a quand même... Alors, vous allez me dire, c'est la diplomatie, de pas toujours dire les choses de manière trop abrupte, ouais. mais quand même, quoi. On peut essayer aussi de faire défendre ses idées, ses droits, même, sans être obligé de s'excuser de tout. Et c'est vrai qu'en Afrique, ça marche pas, parce que je crois qu'ils nous voient... Plus vous montrez des faiblesses, et plus ils en profitent un petit peu, en fait. Plus ils se disent, bon, ben voilà, lui, j'ai compris. Je me souviens très bien d'une anecdote. Un jour, je me suis fait traiter de sale blanc. Bon, ça arrive, hein, il n'y a pas qu'en France, hein, qu'on se fait traiter de sale blanc.
Non, non. Et, c'est peut-être en France qu'on est le plus exposé, voilà, désormais. Voilà.
Mais, et donc, je me suis... je suis vraiment monté au contact, comme on dit. Et en fait, le fait de mettre... d'avoir dit, qu'est-ce que t'as dit là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ton problème, tout de suite ça a calmé le jeu, il y a eu la blague derrière et tout, et en fait je me suis fait respecter comme ça. Alors vous me direz, ouais, mais c'est les rapports de force et tout, pas que, mais c'est important, en fait, de dire, et en fait je me dis, mais je suis blanc, je suis pas déguisé en africain, excuse-moi, j'ai pas des dreadlocks, j'ai pas le petit pantalon boubou comme portaient certains de mes confrères à RFI parfois, pour une espèce de jeu comme ça, de d'envie de se rapprocher des gens. Mais c'est très, je dirais que c'est le journalisme un peu tiers-mondiste. Dans l'humanitaire aussi, vous le voyez, il faut être cool. Si le soir vous pouvez fumer un pétard avec eux, c'est formidable. Voilà, c'est tout ce délire. Et moi, en fait, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été habillé, comme ça partout, à Paris, comme là-bas. Enfin, je joue pas, en fait. Et ça, je crois qu'en Afrique, ils préfèrent. Et ils aiment bien ça. Ils aiment bien qu'on leur parle et qu'on leur rentre dedans, d'ailleurs. Et c'est, je crois, la grosse erreur de cette diplomatie des dernières décennies, c'est d'avoir trop essayé de séduire, d'avoir trop essayé de plaire, et en même temps en imposant parfois des valeurs qui ne sont pas les leurs et qui rejettent en bloc. Donc voilà, donc c'est...
Pensez à quoi? Aux droits de l'homme, ou même à la lutte anticorruption?
Le problème, c'est qu'on a... Les droits de l'homme sont devenus les droits LGBT, donc à un moment, voilà, ça devient un peu trop visible, donc il faut un petit peu arrêter, parce que là-bas, ils ne sont pas tout à fait sensibles à ça.
Rappelons que l'Union Européenne a envoyé là-bas un ambassadeur des droits LGBT. Il n'y a pas du...
Oui, je pense que c'est...
La France,
oui. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi pas trop imposer ses visées, ses visions. Il faut être plus diplomate, là, pour le coup, et être un peu moins donneur de leçons. Et je crois qu'effectivement, la France, elle s'est un peu perdue dans ce type de discours moraliste, quoi. Et,
ouais. Mais on en parlait hors antenne, c'est même quasiment un peu néocolonial, mais pour de vrai, là. C'est-à-dire cette façon de leur dire, en gros, voilà comment tu dois penser, voilà comment tu dois gouverner.
Mais, vous savez, c'est marrant, parce que quand j'étais souvent dans les grandes capitales, quand je revenais de reportage, je me retrouvais, je raconte souvent, parce que je trouve cette anecdote assez intéressante, avec avec des Français, des expats, comme on dit, des expatriés, alors qu'ils travaillaient dans différents domaines. Je ne parle pas des Français qui sont installés là-bas, qui vivent là-bas depuis 20-30 ans, certains ne sont même pas partis depuis la colonisation, et qui sont quelque part des aventuriers. Je parle de certains expats qui, parfois, ou travaillent dans l'humanitaire, par exemple. Et je les voyais se retrouver entre eux le soir. Alors, franchement, j'écoutais les discussions, ce sont des gens tous de gauche, mais tous. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était en pleine époque des opérations militaires françaises en Afrique, et ils critiquaient Serval, Barkhane, ils critiquaient les soldats.
Et... Devant des Africains?
Ah oui, oui, puis alors, ils se débrouillaient pour avoir des Africains qui étaient d'accord avec eux, etc. Donc c'était toute une tablée. Et moi, je leur disais souvent, alors, déjà, si ces soldats n'étaient pas là, vous ne seriez pas en train de vous manger, surtout votre beefsteak à Bamako, dans le meilleur resto français, en plus en général. Voilà, vous ne seriez pas là avec vos grandes maisons, vos villas luxueuses avec piscine, vos 4x4, vous qui êtes des écologistes, ils ne passaient pas une fois ou ils ne rentraient pas en 4x4. Moi, je rentre à pied en Afrique. Quand je quitte un restaurant, si je vais au restaurant, je rentre à pied à la maison où je vis ou à l'hôtel, parce que j'aime bien sentir la nuit aussi là-bas, voir les gens un petit peu, sentir le pays. Or, tous ces gens-là, hop, dès qu'il fait un peu, ah, il faut se cacher, la sécurité, machin, et on prend les grands 4x4 qui polluent. Donc, c'est plein de... Et en fait, je me disais, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je me disais, mais en fait, ces gens-là, quelque part, sont les colons, sont certains colons, en fait, qui, déjà, à mon avis, à l'époque coloniale, devaient cracher dans la soupe. Et je me demande même si c'est pas ça qui a fait tomber cet empire, en fait, à cause de gens qui, finalement, profitaient parfois, mais en même temps, par posture intellectuelle, vomissent tout ce qui est français, se mettront un discours qui est très proche des locaux. Et en général, les locaux, d'ailleurs, moi que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas du tout anti-français. Alors, c'est peut-être une des...
Alors, comment on le devient, justement?
Alors, on le devient en écoutant les récits de France 24.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, vous parlez beaucoup des médias.
On le devient en lisant les livres de M. Mbembe, franco-camerounais, quand même conseiller de M. Macron, qui a eu des discours et des pages de livres extrêmement critiques sur la France, voire même parfois... faut lire ces livres, c'est dur. Et puis, des livres de M. Pascal Blanchard, par exemple, qui est un chantre de la décolonisation, qui adore caricaturer l'époque coloniale française en nous racontant que les expositions coloniales, qui certes peut-être aujourd'hui au regard d'aujourd'hui peuvent être critiquables, pourquoi pas, mais lui ne les résume à des zoos humains, par exemple, en utilisant des mots très forts, et évidemment, quand vous entendez ça, quand vous écoutez RFI, d'abord quand vous êtes en Afrique, les Africains de l'Ouest, hein, francophones, écoute RFI, regarde France 24, ils n'écoutent pas trop leurs médias, en tout cas, peut-être un peu plus maintenant, mais autrefois, il y a encore 4-5 ans, c'était RFI. Donc, ils s'abreuvent de ce qu'on leur envoie depuis Paris. Si depuis Paris, vous critiquez l'armée française tous les 4 matins, la moindre petite bavure, là, si depuis Paris, vous faites des émissions sur la colonisation avec tous les aspects les plus négatifs, vous rappelez tous les 4 matins que l'esclavage, à force, vous finissez par, induire une opinion, créer une opinion hostile, et donc à un moment, les Africains, ils se sont dit, si vous êtes si mauvais, qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est ce que j'ai ressenti.
Et si en plus vous le dites.
Voilà. Et en fait, je considère qu'on a vraiment créé ce sentiment hostile à la France depuis Paris. Il n'y a pas besoin des Russes. Hein. Paris a créé ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être on revient à cette espèce de repentance, de cette espèce de discours où on voudrait se faire aimer. Mais on n'a pas besoin de se faire aimer. En fait, on était aimé en plus. Moi, je vous dis, quand je suis venu dans les années 2000, au début au Mali, je rencontrais des vieux tirailleurs sénégalais. Ils me disaient la France, avec l'œil qui pétillait, c'était tout pour eux. Il n'y avait pas besoin, ils ne demandaient même pas leurs droits. Non, ils étaient fiers d'avoir été sous les drapeaux français. Et la jeunesse à l'époque, moi, je n'ai jamais ressenti de haine anti-français. Rien, je n'ai jamais eu de... Non, c'est depuis 10 ans, avec un discours wokiste, de la déconstruction, de la critique permanente de ce qu'a pu être la France en Afrique, en caricaturant la moindre de nos expériences, qui font qu'aujourd'hui, ils nous regardent avec, et ils en profitent parce que faut pas se leurrer,
ils auraient tort de ne pas le faire.
Il y a peut-être des intérêts derrière, il y a peut-être des choses à récupérer. L'un va demander son droit quand il était tirailleur, l'autre, pourquoi vous nous rembourseriez pas ce que vous nous avez volé. Enfin bon, après tout ça est très compliqué. Alors évidemment, on aime bien rappeler que la colonisation n'a pas commencé avec la France, que l'Afrique, déjà les Africains sont colonisés entre eux, que ça remonte à l'aube des temps, l'homme est arrivé sur Terre, a commencé à coloniser le voisin, que les Arabes ont colonisé l'Algérie, enfin etc. Enfin bref. Et pourquoi cette volonté de nommer de nos intellectuels, enfin certains intellectuels, de toujours parler que de ça, que de cette colonisation-là, comme si c'était le mal absolu, alors qu'on sait que la France a été aussi, pour beaucoup, pas que des infrastructures, mais il y a eu aussi des écoles, etc. Il y a eu une langue, il y a eu une culture, des idées, etc. Peut-être pas la pire en plus, comparé à d'autres.
Par rapport aux Anglais ou aux Portugais, oui.
Ouais, et puis même pour remonter certaines autres colonies.
Oui, ou aux Arabes.
Aux Arabes, c'est. Voilà, donc j'imagine qu'à l'époque romaine, ça ne devait pas être tout le temps marrant. Donc c'est ça qui fait que. C'est ce que je raconte dans ce livre, c'est comment. Par exemple, je vous donne un autre exemple qui est parlant. Quand vous êtes dans une capitale ouest-africaine, vous allez le soir, vous avez envie de voir un spectacle. Il n'y en a qu'un centre culturel, c'est l'Institut culturel français. Parce qu'il faut savoir que des centres culturels locaux, il n'y en a pas beaucoup. C'est de l'argent, la culture, on le sait. Donc, on va à l'Institut culturel français. Dans ces instituts culturels, qu'est-ce que vous voyez en permanence comme spectacle? C'est Que ce soit de danse ou de théâtre, c'est un spectacle sur l'esclavage, c'est un spectacle sur le sort du pauvre migrant qui traverse la Méditerranée pour rejoindre la France et qui est maltraité. Enfin, ce n'est que ça. Or, ces centres culturels...
Et ça, c'est subventionné par qui ? Voilà.
Voilà, c'est subventionné par nos impôts, c'est la France, le centre culturel français. Donc c'est ça qui est accablant, en fait. À un moment, on se dit, mais en fait, on a
c'est un travail de sape qui est quotidien, qui est permanent.
Mais c'est une paresse intellectuelle. Je pense que ce sont souvent des directeurs de centres culturels très bobos, avec cette espèce d'idée du progrès, qui viennent, qui ont des belles places, souvent qui viennent d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des gens de très haut niveau, hein, faut pas croire, on est parfois, j'ai aucun mépris, mais je veux dire, ce n'est pas forcément des intellectuels, mais c'est des gens qui ont compris qu'il fallait apporter ça pour être bien vu par sa hiérarchie, et ça se copie, et donc moi je me souviens d'un ami tchadien qui avait fait un spectacle sur les migrants, et je lui ai dit, mais t'as pas autre chose à raconter, il était très sympa ce type-là, c'était un danseur et tout. Il avait fait un spectacle sur les migrants, évidemment critique sur les pays d'accueil en Europe. Et il me disait, mais François, c'est ça qu'ils nous demandent. c'est
sinon,
ce qu'ils veulent.
Pas, oui.
Et voilà. Donc, et puis on peut prendre comme ça les librairies en Afrique. Elles sont toutes pleines de livres qui nous critiquent, qui sont tous écrits à Paris, avec certains franco-africains, mais qui vivent tous à Paris. Il faut savoir qu'il y a deux visions. Il y a la vision des franco-africains et la vision des Africains. Pas tout à fait la même de la France.
Et alors, dans l'humanitaire, il y a une autre branche de cette tenaille qui est précisément l'espèce de wokisme droit de l'hommiste, où dans les projets, vous aurez peut-être des choses à nous dire là-dessus, mais où on demande donc un quota d'homosexuels ou un quota de femmes dans des projets humanitaires montés en Afrique. Mmh. Ben, ça, comment expliquer que ça se fait ? Est-ce que vous savez comment c'est ressenti par les
autochtones ? C'est souvent, c'est là où c'est là où je pense que les Russes ont récupéré, je dirais, le refus, le rejet de ça, en fait. Ils ont surfé sur ce refus de certaines valeurs occidentales. D'ailleurs, on le voit bien... Sonko, l'ancien Premier ministre au Sénégal, qui vient de démissionner, qui est ce qu'on pourrait appeler un islamo-gauchiste, très vent debout contre les valeurs occidentales. Il critique, il y a des lois maintenant très fermes contre l'homosexualité. Voilà, donc c'est une volonté c'est à la fois une volonté de dire non à une occidentalisation des cultures et des esprits, et puis une volonté de remettre un petit peu de débat, quoi, que ce soit pas la doxa, quoi, que peut-être on puisse reparler de tout ça sans être taxé d'homophobe, ou ce que je vous disais pour Milei, par exemple, qui a fermé les associations, le robinet qui finançait les associations LGBT, mais qui dit, moi j'ai rien contre les homosexuels, à partir du moment où c'est pas nous qui les finançons.
Ouais. Alors, comment expliquer que la diplomatie française se prête à ce jeu ? Parce que j'imagine que c'est un ensemble, ce n'est pas que les humanitaires ou les journalistes, il doit y avoir un...
Moi je crois qu'en fait depuis une dizaine d'années, on va dire depuis Macron, il y a eu une accélération de ce discours-là, qui représentait, je pense, c'est une pensée dans un milieu... qui correspond à des gens dans un milieu, etc. Je pense que c'est révélateur, en fait. Et donc, comme ces gens vivent en plus dans un cercle fermé, dans l'entre-soi, c'est ce qui leur paraît la normalité, en fait. Tout ça, enfin, je veux dire, de discuter, d'imposer toutes ces valeurs, c'est ça qu'il semble. Donc, je pense qu'il y a un manque de réalisme, en fait, dans la diplomatie française. Et je crains que les rares qui voulaient faire entendre une autre voix aient été forcément mis de côté, ou taxés de néo-réac, ou de facho. Vous savez comment on en est arrivé aujourd'hui à cette espèce de classification. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes forcément un fasciste, un nazi, etc. Bon, voilà, le monde est quand même complexe. Ça serait peut-être bien un jour qu'on revienne à du débat, mais on voit bien qu'on est incapable, à un an des élections, d'être dans un débat, je dirais, un peu ouvert, quoi. On est tout de suite dans des anathèmes. Ouais.
Et j'ai même l'impression qu'il y a une forme d'incapacité. Peut-être même ne le font-ils pas exprès, parce que ce sont les premiers à dénoncer donc le colonialisme du 19e siècle qui arrive avec ses idées toutes faites, avec sa volonté de changer les mentalités, etc. Mais eux-mêmes le font et ont aimant. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette logique, encore une fois, bon, on en parlait tout à l'heure, mais néocoloniale. Donc je pense qu'ils se sentent vraiment le camp du bien pour de vrai. Comme si d'ailleurs les gens du 19e siècle se disaient « Ah, je suis un salopard et je suis le camp du mal et je vais faire du mal ».
Après, bon, le monde évolue aussi. Moi, par exemple, je parlais de ma grande-tante tout à l'heure, elle a créé les premières écoles pour femmes en Afrique. C'est pas mal, c'est pas forcément mal. Pourquoi ? Parce que c'était un monde où il y avait quand même un islam rigoriste dans certaines parties de l'Afrique, notamment au Mali, qui s'était imposé, hein, qui avait colonisé, hein, carrément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a d'abord des cultures et des religions animistes, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le pays Dogon, ils ont leur propre cosmogonie, et ils ont résisté à l'islamisation. Et moi, ma grand-tante, qui venait de Bretagne, qui n'avait jamais quitté sa Bretagne, qui était une féministe, elle n'aurait sans doute rien à voir avec le néo-féminisme d'aujourd'hui, mais qui voulait peut-être améliorer un tout petit peu le sort des femmes, quand elle est arrivée en Afrique, elle a eu, je dirais, ses ancêtres du djihadisme qui lui barraient la route, et elle a dû se battre. Et en fait, c'est intéressant, parce que la France, c'est pas que ça, parce qu'il y avait des gens qui défendaient d'autres valeurs que celles-ci, mais c'est aussi ça, c'est ce mélange-là. Donc, et on voit qu'aujourd'hui, dans cette guerre contre le djihadisme ou l'islamisme, il y a parfois des valeurs aussi à défendre, qui ne sont pas forcément mauvaises, contre une espèce d'obscurantisme, volonté de contenir la femme dans une case, de lui mettre le voile complet, voilà. Et on en est, ce qui est fou, c'est qu'on a fait un bond en arrière dans ces contrées, parce qu'à l'époque coloniale, d'abord, il y avait une protection des minorités, je parle des ethnies. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, hein, c'est la plus grosse minorité qui s'impose sur l'autre. Donc les Français, ils ont quand même servi aussi parfois à protéger, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à beaucoup ce qui a été dit après le Rwanda, etc. Et puis, d'apporter, on va dire, un petit peu de meilleur être dans certains, voilà, dans certains niveaux de la société. Et tout ça, et dans les années 60, quand la France est partie, il y avait des structures, il y avait des écoles pour tous, etc., laïques, etc. Aujourd'hui, vous n'avez plus que des écoles coraniques qui s'imposent aux quatre coins du Mali. Et c'est pour ça que, petit à petit, on voit bien que les djihadistes avancent chaque jour plus sereinement pour planter leur drapeau à Bamako. Alors, après, ils vivront leur expérience très bien. Mais ne disons...
Ils en reviennent déjà un peu, on a l'impression.
Ils en reviennent, mais surtout ne jamais croire que le Mali, ce n'est que l'islam. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je suis toujours un peu outré quand j'entends l'Afrique, c'est l'islam. L'Afrique, non, il y avait des chrétiens. Et quand on voit le Nigérien, ils ont été décimés. C'est un peu comme au Proche-Orient. Au Mali, il y avait des chrétiens. Il y avait aussi des animistes, des gens qui croyaient leurs petits, leurs griots, etc. Et pourquoi pas, je veux dire. Mais tous ces gens-là ont été, quand il y a eu la première occupation islamiste au nord du Mali, ce qu'ont pris le plus cher, c'était les femmes et les sorciers, les griots, qu'on brûlait, on jetait leurs gris-gris, voilà, c'était ça la réalité. Et c'était la musique, c'était, voilà, quand je vous disais que c'était le pays de culture, le Mali, c'est tout ça qui va évidemment disparaître avec cet islamisme, cet islam radical.
Alors vous avez connu ça d'assez près, puisque vous avez couvert, donc, comme vous le disiez, les opérations Serval et Barkhane. Et comment vous considérez l'échec de la France? Est-ce que c'est militaire? Est-ce que c'est diplomatique? Est-ce que c'est...
Je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la formation. Ouais. On a perdu la guerre de la formation.
Ah, oh, bah oui.
Oui, parce que sur le terrain, on n'était pas si mauvais. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs opérations. J'ai suivi tout, en fait. J'ai fait Serval avec, en plus, pas que les Français. J'étais avec les Tchadiens. J'étais sur le terrain. Je suis parti de Niamey. Je suis allé parmi les premiers journalistes à Gao. Après, je suis parti à Mbed avec les Français Barkhane. Je suis allé aux portes d'Indeliman, Menaka, qui sont les régions où il y a l'État islamique au Grand Sahara. Enfin, voilà. Et je peux vous dire déjà que sur le passage des convois français, des véhicules blindés, il y avait des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et même dans les années 2017, hein, 20, hein, on aimait la France parce que dans ces régions-là, on était protégé par la France. On avait peur de quoi ? On avait peur des djihadistes et on avait peur aussi des exactions des soldats maliens. C'était ça aussi. Et la France, elle faisait un peu le tampon là-dedans. Donc, elle s'est retrouvée un peu piégée, je dirais, par ce rôle de tampon. Et on lui a reproché, par exemple, de trop protéger les Touaregs. Ça, c'est le régime de Bamako, qui sont les sudistes du Mali, qui sont l'ethnie principale, les Bambara ou les Mandingues, et qui veulent, qui rêvent d'un grand Mali, un petit peu fantasmé, et que les Français les empêchent de réaliser, en fait. Il y a un peu de ça dans ce délire un peu patriotique. Pourquoi pas? Mais les Français.
Patriotique ou ethnique?
Ethnique. Mais patriotique parce qu'ils ont réécrit le récit national en nous faisant plus ou moins croire que le Mali était un grand pays dominé par les Bambara ou par les Mandingues, ce qui a été un peu vrai à une époque où il y avait l'Empire du Mali, mais ça n'a jamais été jusqu'à Kidal, le pays Touareg, ça c'est un peu le grand...
Ça ressemble à un autre grand pays fantasmé dont on est en train d'observer en ce moment les tentatives hégémoniques.
J'ai pas la référence.
Israël.
Ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est
en matière de récit national et de.
Oui. Alors après, c'est deux trucs. Je vais pas me mettre dans cette histoire-là parce qu'après, je connais trop le. Mais oui. Il y a. De toute façon, par exemple, vous parlez les Touaregs, par exemple. C'est un peuple qui a toujours été nomade, qui a jamais été dirigé par qui que ce soit, même par les Français. Les Français, ils ont perdu très vite. Ils ont eu quelques défaites contre les Touaregs et ils leur ont dit, bon, allez, vous vous débrouillez, vous êtes dans votre zone là, vous nous en mettez pas et tout ira bien. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec les Touaregs. Donc eux, ils ne sont jamais sentis maliens. Quand les Français sont partis aux indépendances, les Maliens ont dit, bah non, là c'est chez nous, là c'était aux équerres, bim, vous êtes dans l'équerre, vous nous appartenez. Et là, c'est là que ça a été le début des problèmes ethniques entre des gens du Nord, donc des gens plutôt blancs, les Berbères, les Touaregs sont des gens plutôt blancs de peau. Et leurs esclaves en plus, parce que ces gens-là, nomades, avaient des esclaves noirs, qui leur disaient maintenant vous êtes à nous, vous nous obéissez. Donc là, il y avait un début de problème qui allait aller mal en pis. Et voilà, donc pour revenir à l'idée des Français, ont fait plutôt du bon boulot sur le plan militaire. Ils ont quand même contenu pendant 10 ans quasiment... des assauts qui arrivaient de partout, en plus, parce que vous avez
un territoire gigantesque.
Gigantesque, avec des djihadistes qui arrivaient de Syrie, quand même, de Libye, du Maghreb. Les trois quarts, c'est ça qui est drôle, on parle de colonisation, mais ils sont colonisés par un islam qui vient du Maghreb et du Proche-Orient. C'est ça la réalité du Mali aujourd'hui. Ce n'est plus leur petit Mali façon, leur islam façon dont ils parlaient avant, où on pouvait, la femme se baignait nue dans le fleuve Niger, l'homme allait boire sa petite bière à la fin de la journée, il priait quand il voulait. On est loin de tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans un islam qui n'est pas celui de l'Afrique en fait, mais qui l'a été dans certains pays, notamment au Sénégal, certaines régions du Mali, mais c'est pas la majorité de toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, ils y vont. Là.
Alors, Xavier Van Liert voulait poser une question à François-Xavier Frelon, donc auteur, je le rappelle, de La Grande Repentance aux éditions Intervalle.
Oui, on sait tous que si la France j'attends que vous ayez mis le casque. On sait tous que si la France est à peu près partie d'Afrique, en revanche, simultanément, l'Afrique est plutôt arrivée en France par le biais de l'immigration. Et je voulais vous poser la question du rapport que les populations africaines autochtones entretiennent avec leur diaspora, la façon dont elles les voient. Est-ce que, par exemple, elles les voient comme étant des enfants destinés à vivre ad vitam aeternam en Europe ou plutôt à revenir au pays? Et inversement, si vous connaissez les diasporas africaines en Europe, est-ce qu'elles-mêmes se vivent comme devant faire souche en Europe ou rêvent-elles de repartir un jour dans leur pays natal, se repatrier en quelque sorte?
Il y a un peu les deux. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de franco-africains en France... Hein, ont perdu quand même le même s'ils retournent en vacances etc. Alors déjà ils sont parfois mal vus, mais ça c'est, on le sait hein, c'est comme les franco-maghrébins parce qu'ils se comportent pas toujours bien, parce qu'il y a une forme de parce qu'ils sont français quand ils vont là-bas hein. Et puis en plus bah, ils ont la même mentalité que les Français, c'est-à-dire qu'ils ont tout compris, ils ont tout vu et je me souviens très bien d'ailleurs d'un avion d'un vol d'Air France Paris-Bamako où dans l'avion de Paris, il y avait que des femmes voilées. Que des femmes voilées qui venaient de Montreuil ou de je ne sais où. Et qui venaient pour apporter la tradition au village. Moi, j'ai discuté avec des Bamakois, avec des Franco-Maliens et même des Bamakois qui me disaient « Mais ils nous ramènent la tradition !» Et moi, je leur disais, mais c'est pas ça votre tradition, puisque votre tradition, c'est le gris-gris, c'est l'islam façon, c'est toutes vos cultures, la petite musique, tout ça.
Mais ils l'ont oublié ou quoi?
Ben, ils l'oublient. On est quand même à une époque globale, malheureusement, où dans les médias français, on écoute quoi? Du rap. Hein. On leur sert que ça, en fait. On oublie la culture malienne qui est la kora, la jolie musique, en fait. Et de plus en plus, ça va très très vite, en plus. Parce que moi, je vous parle des années 2005, il y avait encore une culture très forte au Mali, Salif Keïta, bon, c'est un chanteur connu, mais il y en avait des dizaines, et on les voyait partout, on les entendait partout, il y avait des balles poussières, c'était des espèces de balles de... Ça disparaît, parce que maintenant, c'est complètement volatilisé à cause de cette culture religieuse complètement sombre, qui arrive beaucoup de France d'ailleurs, dans les bagages de ceux qui vous racontent qu'ils apportent la tradition, et cette tradition qui vient pourtant du Proche-Orient, ça je l'ai vu, je l'ai... Et puis, cette néo-culture, cette nouvelle culture, on va dire, cosmopolite, qui emporte tout, qui emporte toutes les identités en fait, donc qui s'impose. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit musicien malien, bah vous êtes un joueur de rap, vous êtes un chanteur de rap, voilà. Vous n'êtes plus un chanteur de musique mandingue, vous n'êtes plus un... Parfois, mais je veux dire, vous êtes ridicule. La nouvelle jeunesse, elle ne veut que ça, parce qu'elle n'écoute que ça, elle n'entend que ça, la télévision française. On leur sert que ça. Ou alors, vous rêvez d'être footballeur. Voilà, c'est ça la réalité de ce que nous, on leur renvoie depuis la France. Hein. C'est nous qui avons créé aussi cette envie de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand les médias, ouais. Quand les médias ne montrent que ça, les Porsche et les jolies filles et du rap, où on insulte tout le monde et des joueurs de foot qui se prennent pour des vedettes, bah, quand vous êtes tapé dans un petit ballon crevé dans les rues de Bamako, vous vous dites c'est ça le paradis en fait, et vous rêvez que d'une chose, c'est de prendre le premier bateau ou la première Jeep qui vous mènera du désert au PSG, mais c'est ça. Donc revenir à votre question monsieur, voilà, il y a cette mentalité franco-africaine qui, je le crains, soit un peu acculturée, d'ailleurs on le voit. Je vous disais tout à l'heure que j'étais dans le train hier et qu'il y avait des gamins du PSG dans le wagon qui se comportaient mal, et je me disais c'est pas ça. Ça, c'est pas les valeurs de vos parents, de vos ancêtres. On vous les a pas inculquées. En plus, le sport, mon grand-père me disait que le sport, c'était les valeurs au-dessus des autres. C'était par là qu'on apprenait à être éduqué. Or, ces gamins, qu'est-ce qu'ils ont à travers le sport ? C'est d'abord, ils cassent tout une fois qu'ils perdent le match, mais en plus.
Même quand ils le gagnent.
Mais en plus, il y a plein cette valeur d'honnêteté, de respect. C'est ça le sport. Ça devrait être ça. C'est ce que devrait dire Deschamps tous les 4 matins, au lieu de nous raconter que c'est formidable, que tout le monde est beau, qu'on s'entend bien. Non, c'est de raconter que le sport, c'est ce qui donne une vraie... c'est ce qui pourrait même...
C'est ce qui devait arrêter la guerre.
C'est ce qui pourrait arrêter la guerre.
Bah, c'était une des théories qu'on avait dans les années, dans l'entre-deux-guerres.
Je trouve que, voilà, vous avez un nom qui est important, Courtoisie. Je trouve que c'est ce qui s'est perdu en France, en fait. Moi, je viens... Et j'ai d'ailleurs rendu hommage à mes grands-parents dans ce livre, et à mes ancêtres, en fait. Parce que je trouve que c'était ça, la France. C'était la courtoisie, quand même. C'était des gens qui respectaient les autres, même si vous n'aviez pas les mêmes idées. Il y avait une politesse, etc., qui sont complètement perdues. Tout à l'heure, j'étais dans votre rue, là, boulevard Excelmans, ou avenue, je sais.
Boulevard Excelmans,
je me suis retrouvé dans un hypermarché. Les enfants sont rois, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'assiedent partout. Vous pouvez plus prendre un morceau une tablette de chocolat parce qu'ils sont là en train de boire leur truc. Enfin, je sais pas. Il y a aucune autorité, en fait. C'est un pays dans la rue et même dans les quartiers entre guillemets bourgeois. Pardonnez-moi, vous êtes dans le 16e. Donc on n'est pas en banlieue parisienne. Même là, c'est comme ça. Bon, donc pour revenir à la question. Donc les Africains, après eux, ils regardent un peu les France-Africains, parfois avec admiration, parce que forcément ils ont l'illusion du confort. Leur cousin à Paris, hein, ils leur font croire que la vie est formidable, alors que les trois quarts galèrent. Donc ils ont l'illusion du confort, mais souvent, je vous parle pas des Franco-Africains qui vivent à Bamako, et je dirais même ceux qui ont le double passeport et qui en profitent bien. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer la France depuis Bamako, mais dès qu'il y a un coup d'État qui va les remettre en question, ils sont dans le premier avion d'Air France, affrété par la France. Hein. Et là, je peux vous dire qu'ils montreront leur passeport français en rappelant qu'ils ont des droits. Donc ça, ces gens-là, j'en parle pas parce que c'est la bourgeoisie locale et qui est extrêmement méprisable et méprisée d'ailleurs par le petit peuple, mais le petit peuple n'a pas le pouvoir dans ces pays-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les trois quarts...
Ici non plus.
Oui, peut-être un peu plus quand même. On va pas se. Mais c'est vrai que et là-bas c'est ça. Donc les Africains d'Afrique n'ont pas la même avis de la France que les Franco-Africains. Ils sont souvent beaucoup moins critique quand même de la France. Ils nous regardent avec encore beaucoup de sympathie, contrairement à ce qui est dit, que la colonisation c'est l'horreur absolue. Moi je vous dis, je vous le répète, pendant longtemps et encore maintenant, les gens nous disent mais attendez, on a plein de points en commun, on s'aime bien, etc. Voilà, bon, bah, et même souvent ils me disent en Afrique, mais faites-vous respecter chez vous, ça les choque pas. Je veux dire, c'est pas possible que des gens que vous recevez vous crachent dessus. Alors je dis pas que c'est la généralité, mais quand même, il y a quand même un petit souci de d'intégration. Non, nous en Afrique, ça se passerait pas comme
échappé.
Ça.
Alors, malheureusement, le temps nous presse un peu, mais alors déjà, je m'aperçois quand même que ce recul de la France est en fait infiniment plus culturel à vous lire et à vous écouter, donc que politique, diplomatique ou je ne sais quoi. Ça a l'air d'être vraiment plus une question de discours, de culture.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu de tout, en fait. Je pense qu'en France, on a vraiment la culture de la haine de soi, en fait. Je comprends pas ce pays, en fait. C'est vrai que, comment il dit, Sylvain Tesson avait dit que c'était un pays, c'était le paradis, mais que les gens pensaient que c'était
Un enfer, ouais.
Pour un enfer, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que maintenant, on est pas loin de l'enfer parce qu'on a quand même changé depuis 10 ans. Je crois que ça fait quand même 10 ans qu'il a dit ça et que le pays a quand même glissé. On va dire vers le chaos. Hein. C'est quand même quand on prend le train, on s'en rend compte, mais pas quand on prend le train, en marchant dans les rues. Moi, je fais du vélo dans Paris. Vous voyez cette belle capitale, cette histoire. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait. Il y a un réel problème de culture, de civilisation. Peut-être, je sais pas. Alors peut-être c'est pour en préparer une autre. Mais si celle qu'on nous prépare, c'est McDonald's, rap et Netflix, on est mal barré parce que ces enfants-là, je suis désolé, mais ils n'ont que ça en tête. Même dans les milieux, je dirais privilégiés, même dans les milieux où ils vont dans des écoles, je dirais. Ils sont un petit peu élevés vers le haut, mais en fait, on met tellement ça en avant, cette culture-là, que maintenant, il faut avoir les cheveux frisés pour ressembler à un chanteur de rap. Les jeunes, aujourd'hui, se font friser les cheveux pour ressembler à des gamins des banlieues. Enfin, c'est une réalité. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Et il y a un vrai mimétisme. Et il faut mettre la capuche noire, même quand vous êtes dans le 6e arrondissement, parce que ça fait rappeur. Et que,
vous direz Mathieu Pigas fait ça, donc c'est dit.
Et en fait, moi, je trouve ça triste, parce que je considère que la France, c'est un pays de littérature, et tout ça est en train de disparaître. Je vais juste te donner un autre exemple. Alors, je me suis baladé, je voulais manger quelque chose, mais vous n'avez plus rien, vous n'avez que des kebabs partout. Montparnasse, c'est que des kebabs, que des chinois, mais vous voulez manger un truc français. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous mangez un riz de cornichon, c'était pas non plus, et c'était pas cher en plus. Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de français. Et tous les nouveaux restos qui apparaissent sont des restos du monde. Bon, pourquoi pas, mais en plus, c'est pas des bons restaurants. Enfin, moi, je veux bien, à la limite, manger asiatique. Je veux bien manger un kebab, mais il faut qu'il soit de qualité. Or, on sait très bien que c'est de la malbouffe, que c'est de la bouffe pas chère, etc. Et nos jeunes vont là-dedans et mettent ça en avant. Moi, mes grands-parents, qui étaient des gens qui aimaient la bonne chair, mais ils se retournent dans leur tombe. Qu'est devenue la gastronomie française? Alors, bien sûr, ça fait vieux jeu, vieux con.
Il y a le banquet.
Il y a le banquet. Le canon.
Le canon.
Alors, avant de conclure, si vous étiez François-Xavier Frelan, conseiller Afrique à l'Élysée, quelles seraient les deux ou trois mesures que vous préconiseriez pour essayer d'abord, est-ce qu'à votre avis c'est foutu, ou est-ce qu'il y a une chance de récupérer un peu de cette influence qu'on a eue sur l'Afrique et de rétablir de bons rapports, et comment? Alors, deux ou trois mesures un peu concrètes, efficaces.
Déjà, la différence avec beaucoup de mes confrères, c'est que je n'ai aucune ambition professionnelle. Donc déjà, je suis bien où je suis. Ensuite, moi, je pense qu'il faut, ce qu'on a dit tout à l'heure, arrêter le blabla, être dans des rapports vrais. Donc, on est là pour faire des investissements. On est là pour vous aider, mais pour vous aider si ça nous aide, en fait. Donc, soyons honnêtes, soyons francs, comme vous le disiez tout à l'heure. Arrêtons avec tous ces principes donneurs de leçons. Envoyons des gens qui soient pas justement dans un double discours. Le « en même temps, c'est fini », les gens ont ras-le-bol, ici et là-bas. Peut-être
aussi les prendre tels qu'ils sont, donc avec...
Bien sûr, et puis mieux les connaître.
Éventuellement même cette corruption dont on parlait un peu.
Bien sûr, et mieux les connaître aussi, c'est intéressant, et puis arrêter d'imposer nos visions en leur faisant croire que c'est le bien absolu et que c'est un peu les leurs. Enfin, je pense qu'il faut être un peu plus humble. Voilà, après, ne pas avoir honte d'être français quand même.
Oui, c'est un bon début. Et bien sur ces... fort propos de conclusion, François-Xavier Frelan, merci d'être venu nous présenter donc La Grande Repentance, Afrique-France, les infortunes de la vertu aux éditions Intervalle. Merci encore.
Merci à vous.
Et on se retrouve, chers auditeurs, dans un instant pour le rendez-vous de la réinformation.